sur le DAB+.
Principe actif, le mix des cultures.
If someone you give your life for walks out on you, and you feel you have no one, no one else to turn to, open up your heart, stretch out your arms, remember somebody else somewhere. If at night you just can't sleep, 'cause you can't stop crying, heartache seems to multiply, your eyes just won't stay dry. Remember somebody else somewhere, yeah, somebody somewhere, somebody else somewhere needs you.
Principe actif. Une rediff, quoi.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous ne mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de lettres,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elles,
de vous,
et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'une grande artiste peintre mexicaine. Donc, il s'agit...
qui
peut-être la musique vous donne une piste, voilà. Donc on va vous parler de Frida Kahlo. Alors, son nom entier d'ailleurs, c'est Magdalena Frida Carmen Kahlo di y Calderón. Donc qui est bien sûr une artiste incontournable hein, du XXe siècle, qu'on ne présente plus puisque maintenant elle est, on entend parler partout, la pauvre, elle qui était vraiment...
Elle est un peu mise à toutes les sauces.
Voilà, c'est ça. Donc sa famille profite bien de son image.
Tout à fait, on peut même acheter des mugs avec Frida Kahlo.
Donc... C'est la fille du photographe et historien allemand Guillermo Kahlo et de Mathilde Calderón et González. Alors, cette artiste américaine est devenue un symbole nationaliste de son pays et du féminisme par ses nombreux autoportraits, transformant ses douleurs en art. Explorant des thèmes comme le deuil, la mort et l'amour, elle ne s'est jamais laissée définir par les autres sur son identité. Et pour elle, son art dépeint sa réalité et sa liberté. Alors, on va tout vous passer une petite... musique là. Alors j'ai pris toutes les musiques en fait qui étaient dans le, enfin sauf celle qui sert le tapis. Toutes les musiques sont issues comment du film qui a été fait qui est sur Frida Kahlo qui s'appelle Frida d'ailleurs tout bêtement. Voilà. Donc je vous propose d'écouter un premier titre qui s'appelle Kuyakan and Variation.
Belle musique. Bon, on pourrait peut-être parler de la Maison Bleue déjà.
Ah bon, Maison Bleue.
La Maison Bleue. C'est l'actuel musée de Frida Kahlo, en fait, qui est au Mexique. Hein, parce qu'effectivement, elle est américaine, mais particulièrement mexicaine. C'est le lieu de naissance et de mort de Frida Kahlo. Elle était née à Casa Azul. Et elle grandit dans une famille de 4 filles, quartier bourgeois de Coyoacán, au sud de Mexico. Sa date de naissance réelle, c'est le 6 juillet 1907, mais en fait, elle a falsifié, enfin sans vraiment falsifier d'ailleurs, elle a volontairement décidé qu'elle, finalement, elle était née le 7 juillet 1910, parce que c'est l'année du début de la Révolution mexicaine, voilà. Mais c'était pas caché, enfin, on connaît, oui, elle n'avait pas cherché à masquer, juste, voilà. C'était symbolique, c'était politique, voilà.
Révolutionnaire. Et...
Alors après sa mort, elle est morte le 13 juillet 1954, donc elle avait seulement 47 ans. Hein. Après sa mort, sa maison devient un musée rempli de peintures et d'objets d'art créés par elle-même. voilà, pour rendre hommage à la culture mexicaine. Une culture qui était très très chère à son cœur. Alors Frida avait une santé quand même très fragile. Hein. À 6 ans, elle est atteinte de poliomyélite, la polio comme on disait, donc une infection aiguë qui entraîne une paralysie en fait. La paralysie spinale infantile. Elle peut entraîner donc une paralysie surtout aux membres inférieurs, mais pas toujours que. Et toute sa vie, en fait, Frida Kahlo va souffrir d'une jambe droite atrophiée. Son pied arrête de grandir. Enfin, voilà. Donc, elle mettait des grandes jupes très, très longues jusqu'au pied. Ça masquait cette affaire. Et il y a même des camarades de classe qui vont la surnommer Frida la Coja, donc Frida la Boiteuse, ce qui n'était pas très sympa. On ne parlait pas de harcèlement sûrement à l'époque, enfin, voilà, je pense qu'elle l'a été. On pense aussi on suppose qu'elle avait aussi souffert d'un spina bifida. Donc, c'est une malformation au niveau de la colonne vertébrale, ce qui aurait pu aussi gêner le développement de sa jambe. Enfin, ça, je ne sais pas trop. En fait, rien que la poliomyélite, ça suffit à expliquer quand même.
C'est déjà un gros truc.
Et puis, ajouté à cette santé initialement assez fragile, le 17 septembre 1925, elle prend le bus pour rentrer après ses cours. L'autobus sort de la route, percute un tramway, un accident très grave avec plusieurs morts, et elle est grièvement blessée avec une barre de métal qui la transperce au niveau de l'abdomen et du pelvis. Enfin bref, un truc, c'est d'ailleurs certainement ça qui expliquera qu'elle a fait plusieurs fausses couches après, parce qu'elle devait avoir des adhérences, le syndrome d'Asherman, voilà. Et cela explique également le thème de nombre de ses œuvres. Sa jambe droite est fracturée en de nombreux endroits, 11 au total, son pied droit est cassé, le bassin, les côtes, la colonne vertébrale sont eux aussi brisés, l'épaule n'est que démise.
Heureusement que l'épaule... Alors elle va du coup rester alitée pendant 3 mois hein, dans un hôpital, dont un mois dans un hôpital. Et environ un an après l'accident, elle va retourner à l'hôpital car on remarque qu'une de ses vertèbres lombaires est fracturée. Mmh. Elle est donc contrainte de porter durant 9 longs mois des corsets en plâtre. Et donc, du coup, j'ai vu un documentaire où effectivement, elle a été suspendue à une espèce de câble et tout ça par le cou. Puis donc, son corps était enduit de plâtre. En fait, elle est restée comme ça pendant, 12 heures, je crois. Suspendu pour le truc horrible quoi.
Le temps que ça sèche,
donc du coup, comme elle pouvait plus du tout bouger, elle va commencer à peindre en déclarant je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre, et cette raison c'est la peinture. Donc
pour l'aider, sa mère lui offre une boîte de couleurs, lui fait fabriquer un chevalet spécial et fait installer un baldaquin au-dessus de son lit avec un miroir en ciel, quoi, de lit. Du coup, elle peut voir son reflet et elle se sert d'elle comme modèle, en fait. C'est certainement ça qui fait qu'elle a fait une très longue série d'autoportraits. En effet, sur 143 tableaux, 55 sont des autoportraits, en fait. Ce qui est pas mal, parce que ça fait un tiers.
Elle ne sait pas qu'elle était narcissique, mais bon...
C'était un peu sa seule possibilité quand elle était couchée, quoi. Et d'autant qu'elle a subi quand même de nombreuses interventions chirurgicales, et à chaque fois, il fallait qu'elle reste allongée sur un lit. Elle s'est fait opérer 32 fois et elle portera 28 corsets différents pour soutenir sa colonne vertébrale. Un an avant sa mort, malheureusement, son état se dégrade et elle subit une amputation de la jambe, ce qui fut pour elle aussi une période très douloureuse. Donc voilà, c'est pas très réjouissant.
Bah non, c'est...
Yeah.
Alors, bien que passionnée par l'art, hein, grâce à son photographe de père, Frida n'envisageait pas une carrière artistique au premier lieu. Elle est admise dans la très concurrentielle Escuela Nacional Preparatoria. Elle s'intéressait grandement aux sciences naturelles et souhaitait se consacrer à la médecine. Une vocation qu'elle aurait pu parfaitement poursuivre grâce à son esprit vif. Elle fait d'ailleurs partie des 35 filles admises dans l'établissement, composé de 2000 élèves. Mais à cause de son accident d'autobus, elle se voit contrainte d'abandonner son rêve. Et c'est pendant cette période donc qu'elle va s'intéresser à l'art de plus près, utilisant la peinture hein, comme un moyen cathartique d'exprimer sa douleur. Donc, c'est après donc quand elle est un peu remise là qu'elle va rencontrer Diego Rivera. Alors Diego Rivera, il s'appelle en fait Diego Maria de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez.
Bravo.
C'est bien hein, que pour signer. Donc Diego Rivera, voilà, c'est plus facile à retenir. Alors lui, il est mondialement connu hein, pour ses peintures murales, peintre mexicain, donc il fait la connaissance de Frida Kahlo lors de son passage dans l'école de la jeune femme en 1928. Elle admire beaucoup Rivera et lui demande son avis au sujet de ses propres tableaux. Alors le muraliste, il est quand même impressionné hein, par les réalisations de la jeune femme. Impressionné par le talent de l'artiste, il va déclarer « Elle possédait une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Ses œuvres véhiculaient une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. » Alors, bien qu'ayant 21 ans d'écart avec le peintre, Frida Kahlo va épouser Diego le 21 août 1929. Il s'installe à Mexico dans un atelier, mais Diego ne tarde pas à la tromper. Elle-même s'engage dans de nombreuses relations extra-conjugales. Bisexuelle, elle va séduire de nombreux hommes et femmes. Et bien que compliquée, donc leur relation est véritablement passionnée.
Alors, on peut dire plein d'autres choses hein, sur Frida Kahlo. Par exemple, c'était une féministe reconnue. Elle était inscrite au Parti communiste à l'âge de 21 ans et elle a beaucoup combattu pour l'émancipation des femmes dans la société mexicaine de l'époque qui était quand même assez machiste voilà, alors que Frida elle rêvait plutôt de liberté. C'était aussi très très catholique avec des règles de vie assez strictes et elle s'est beaucoup démarquée. Elle a eu une éducation athée et donc elle s'est pas mal démarquée des très jeunes en fait de ce qui se faisait à l'époque pour ce qu'on attendait des jeunes filles. Donc à travers son art, elle évoque finalement le plafond de verre qui soumet encore les femmes, c'est-à-dire l'avortement, le patriarcat, la sexualité. Elle se servait de son monosourcil comme d'une arme contre les pressions sociales et les injonctions esthétiques qui étaient imposées à l'époque. C'était une artiste éprise de bonheur simple. Elle était aussi épicurienne, enfin elle était même alcoolique, hein. Faut quand même bien dire les choses.
Non, mais c'était pour dire qu'elle aimait la bonne chair.
Elle fumait bien, énormément elle buvait énormément, malgré les recommandations des médecins. Et elle n'hésitait pas aussi à se laisser prendre en photo en tenue masculine, ce qui n'était pas avec un verre de tequila à la main, une cigarette, enfin bon. Des clichés finalement assez anticonformistes pour l'époque, ce qui a contribué quand même à lui établir une réputation plutôt scandaleuse.
Voilà, un peu sulfureuse.
Voilà. Donc à l'époque, la politique du pays était assez instable et elle décide de participer à cette instabilité. En 1937, elle offre d'ailleurs asile politique au révolutionnaire communiste Léon Trotsky et à son épouse. Alors, je crois que c'est plutôt son mari qui les a ramenés que elle. Enfin bon, en tout cas, elle a accepté, il n'y avait pas de souci. Ce qu'elle défend, c'est la condition et l'émancipation des femmes mexicaines, clairement. Dans cette société, encore donc, comme je disais tout à l'heure, machiste, elle veut porter la voix de toutes ces femmes silencieuses et soumises. Cette figure de femme moderne lui colle à la peau et elle n'hésite même plus en affichant publiquement sa bisexualité. Ce qui est quand même pas banal à l'époque.
Bah oui, enfin, c'est bon, déjà...
Elle profite de sa peinture aussi pour porter des messages et va même affirmer son anti-américanisme dans son autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis en 1932. Voilà, donc ça c'était son côté révolutionnaire.
Donc allez, une autre petite musique.
Principe actif. Une rediff, quoi.
Alors, bien qu'étant anti-américaine, elle, en novembre 1930, ils vont emménager à San Francisco, car Diego a été chargé de réaliser des peintures murales pour la San Francisco Stock Exchange et pour la California School of Fine Art, dans l'actuel San Francisco Art Institute. Alors, Kahlo y fait la connaissance d'artistes, de commanditaires et de mécènes, dont Albert Bender. Celui-ci est parvenu à obtenir une autorisation d'entrée aux États-Unis pour Diego Rivera. Et en remerciement, Frida Kahlo réalise en 1931 le portrait double Frida et Diego Rivera, inspiré de leurs photos de mariage. En 1930, elle va subir sa première fausse couche. Après l'accident, on lui avait pourtant dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant à cause de son bassin, fracturé en trois endroits, qui empêcherait une position normale pour le fœtus et un accouchement sans problème. Alors, lors de leur séjour à Détroit, elle est de nouveau enceinte. Au début de cette deuxième grossesse, Frida Kahlo voit un médecin à l'hôpital Henry Ford qui lui conseille de garder l'enfant au lieu d'interrompre sa grossesse. Elle pourrait accoucher par césarienne. Mais malgré le pronostic du médecin, elle fait une autre fausse couche le 4 juillet 1932. Elle reflète ses sentiments, son impression de solitude et d'abandon après la perte de l'enfant dans le tableau L'hôpital Henry Ford ou Le lit volant, dans lequel elle peint un fœtus masculin surdimensionné en position embryonnaire. L'enfant perdu lors de la fausse couche, le petit Diego, qu'elle avait tant espéré porter jusqu'à terme. Après ce pénible... Bon, Marie-Christine a quelques problèmes avec ses...
Non, ça y est, c'est bon. C'était collé.
Donc après ce pénible épisode, Frida va peindre donc des tableaux qui traduisent sa lassitude et son dégoût des États-Unis et des Américains, alors que son mari, lui, reste fasciné par ce pays et ne veut pas le quitter. Elle exprime aussi son point de vue sur le pays des gringos dans Autoportrait, donc le tableau dont on vous a parlé tout à l'heure, là, voilà. Et dans ma robe est suspendue là-bas. Malgré son admiration pour le progrès industriel des États-Unis, la nationaliste mexicaine se sent mal à l'aise de l'autre côté du Rio Bravo. Et entre-temps, sa mère meurt le 15 septembre 1932. Et donc après, dans les années 30, après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, elle écrit son prénom Frida avec un F-R-I-E FRIDA pour Frieden, la paix en allemand. Mmh. Voilà, elle est très.
Elle aimait bien les positions.
Voilà. Et il faut dire que par exemple, le tableau qu'elle a fait en représentant donc son accouchement, sa fausse couche et tout ça, c'était quand même la première fois au monde qu'une femme, surtout, toi, peignait de tels tableaux. Oui, quoi. Oui. C'était. Donc ça, c'était choquant pour les gens.
Alors, Diego Rivera consent finalement en décembre de 1933 à revenir au Mexique. Donc il rentre, il s'installe dans une maison à Sant'Angel, construite par un ami architecte et peintre, Juan O'Gorman. Et pour l'anecdote, c'est à cette période, lors de son voyage de noces au Mexique, que l'acteur Edward G. Robinson, célèbre pour ses rôles de gangster et grand amateur d'art.
Voilà, ça, on le voit beaucoup dans